L'Iran retrouve son droit de vote à l'ONU. Le ministère sud-coréen des Finances a déclaré dimanche que l'Iran avait payé ses arriérés de cotisations à l'ONU à partir de ses fonds gelés en Corée du Sud, décision qui rétablit immédiatement son droit de vote. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que l'Iran avait soumis une demande d'urgence à la Corée du Sud le 13 janvier pour utiliser l'argent que Séoul doit à Téhéran pour payer ses arriérés après que les Nations Unies l'aient informé que sinon l'Iran perdrait son droit de vote. Il convient de noter que l'Iran doit recevoir 7 milliards de dollars pour des expéditions de pétrole gelées de deux banques sud-coréennes, Industrial Bank of South Korea et Woori Bank, en raison des sanctions américaines. Les États-Unis ont rétabli les sanctions contre l'Iran en 2018 lorsque l'ex-président américain Donald Trump et son administration se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre l'Iran et les cinq grandes puissances mondiales. Le ministère sud-coréen de l'économie et des finances a déclaré vendredi que 18 millions de dollars avaient été versés aux Nations Unies dans le cadre des frais d'adhésion tardifs en utilisant des avoirs iraniens gelés en Corée du Sud après des consultations avec des responsables des organisations connexes, y compris le Bureau du contrôle des actifs aux étrangers des États-Unis, le Trésor et le Secrétariat des Nations Unies. Selon la marine française, le porte-avions Charles de Gaulle reste dans la mer Méditerranée, éventuellement pour combattre la Russie. Comment se fait-il que face au bellicisme US-OTAN contre la Russie, le chef de la marine allemande démissionne? Mais celui de la marine française annonce son déploiement en Méditerranée et en mer Noire. C'est sans doute une différence de perception des intérêts nationaux. Les pays vassalisés, comme la France, doivent privilégier les commandes outre-Atlantique. Toujours est-il que selon OPEX 360, la mission Clémenceau 2022 que s'apprête à mener le groupe aéronaval français GAN, encore appelé Task Force 473, ou bien encore ses nouveaux French Carrier Strike Group, aura un profil particulier par rapport à celles qui ont été conduites durant ces dernières années. En effet, le porte-avions Charles de Gaulle n'aura pas traversé le canal de Suez pour naviguer avec son escorte dans l'océan Indien ou dans le golfe Persique, pas plus qu'il ne se rendra dans l'Atlantique Nord comme en 2020. Et cela pour cause, il ne quittera pas la Méditerranée. Et ce n'est pas une surprise quand on se souvient des propos tenus par le président Macron le 13 juillet 2020. La zone Méditerranée sera le défi des prochaines années, tant les facteurs de crise qui s'y conjuguent sont nombreux. Contestation des zones maritimes, affrontements entre pays, riverains, déstabilisation de la Libye. Migration, trafic, accès aux ressources, avait résumé le locataire de l'Élysée avant d'en appeler à une véritable politique européenne pour la Méditerranée. Et d'insister, la Méditerranée ne peut construire une paix durable sans nous. Nous ne pouvons accepter que notre avenir soit construit par d'autres puissances. Lors du point presse du ministère des Armées le 20 janvier, l'amiral Gilles Boisdevezy, commandant de la zone maritime Méditerranée, CESMED, a rappelé que, au-delà des conflits et des tensions, cette mer qui ne représente que 1% de la surface des océans est le lieu de transit de nombreux flux, dont les sites 25% du trafic mondial et 65% de flux énergétiques des pays de l'Union européenne, qui les sites migration stupéfiants, armes, traite d'êtres humains, ce qui n'est pas sans conséquence sur la sécurité du vieux continent. La présence française dans la zone s'avère donc nécessaire pour défendre nos intérêts économiques et sécuritaires, ainsi que pour réaffirmer notre attachement à la liberté de circulation aérienne et maritime, comme au respect du droit international, a expliqué l'amiral Boisdevezy. Le porte-avions Charles de Gaulle appareillera de Toulon au début du mois de février, avec à son bord un groupe aérien embarqué GAE, composé d'une vingtaine de rafales MF-3R des flottilles 12F et 17F, de deux E2C Hawkeye de la flottille 4F et de plusieurs hélicoptères de fin de la 35F et Panther de la 36F. L'un des quatre NH-90 NFH belges devrait le rejoindre en cours de mission. Le chef de la marine allemande démissionne après ses propos sur l'Ukraine et Poutine. Le chef de la marine allemande, Karl-Achim Eschenbach, a démissionné après ses récents propos sur Vladimir Poutine et la crise actuelle autour de l'Ukraine. Le vice-amiral Karl-Achim Eschenbach a démissionné de son poste de chef de la marine allemande après avoir contraint le ministère de la Défense à s'expliquer pour ses déclarations concernant la crise ukrainienne. J'ai demandé à la ministre fédérale de la Défense, Christine Lambrecht, de me libérer de mes fonctions avec effet immédiat, a indiqué M. Eschenbach dans un communiqué ajoutant que la ministre a accepté sa demande. Auparavant, le vice-amiral avait qualifié d'ineptie l'idée selon laquelle la Russie envisageait d'envahir une partie de l'Ukraine et estimait que Vladimir Poutine méritait d'être respecté. Il avait en plus jugé que l'Ukraine ne serait jamais en mesure de réintégrer la péninsule de Crimée rattachée à la Russie en 2014 au terme d'un référendum organisé dans le siège de la révolution de Maïdan. Le ministère allemand de la Défense s'est distancié de ces déclarations faites lors d'une réunion d'un groupe de réflexion à New Delhi, indiquant qu'elles ne correspondent en rien à la position officielle. Selon Der Spiegel, les propos de l'amiral intervenu en pleine crise russo-occidentale autour de l'Ukraine ont créé un malaise jusque dans les plus hauts échelons du gouvernement allemand, dirigé par le chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Face à cette réaction, M. Eschenbach avait posté un tweet précisant que ses déclarations n'engageaient que lui, avant de présenter des excuses et de qualifier ses propos d'irréfléchis. Tension avec la Russie. Le temps va lancer un exercice en Méditerranée avec le porte-avions USS Harry S. Truman. Selon Laurent Lagneux, l'auteur de l'article, il va y avoir du monde en Méditerranée durant les prochains jours. En effet, le 21 janvier au soir, le Pentagone a annoncé la participation du groupe aéronaval formé autour du porte-avions USS Harry S. Truman à l'exercice Neptune Strike 2022, lequel sera mené sous la bannière de l'OTAN à partir du 24 janvier et jusqu'au 4 février. Déployé en Méditerranée depuis le 1er décembre, l'USS Harry S. Truman était attendu au Moyen-Orient seulement en raison des tensions avec la Russie et en prévision des discussions que celle-ci devait avoir avec les États-Unis et l'OTAN. En janvier, le chef du Pentagone, Lloyd Austin, avait ordonné son maintien dans la région, estimant qu'une telle mesure était pour réaffirmer l'engagement de Washington envers la défense collective de l'OTAN. Écrit M. Lagneux. Quoi qu'il en soit, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a expliqué que l'exercice Neptune Strike 2022 est destiné à démontrer la capacité de l'OTAN à intégrer la force de frappe maritime sophistiquée d'un groupe aéronaval en soutien aux efforts de dissuasion et de défense de l'Alliance, et d'assurer qu'il n'a pas de lien avec les tensions avec la Russie au sujet de l'Ukraine, soulignant que sa planification a commencé en 2020. L'exercice lui-même n'est pas conçu pour contrer le genre de scénario qui pourrait se produire autour de l'Ukraine, a fait valoir M. Kirby. C'est vraiment un exercice naval de l'OTAN destiné à tester un vaste éventail de capacités navales que nous voulons être sûrs de continuer à renforcer, a-t-il insisté. Seulement, et sauf erreur, Neptune Strike 2022 ne figurait jusqu'alors pas au programme des exercices devant être menés dans le cadre de l'OTAN en 2022. A noter également que le sous-marin nucléaire lanceur de missiles croisière USS Georgia, classe Ohio, a fait une escale à Chypre le 15 janvier. Au début du mois, le sous-marin nucléaire d'attaque SNA USS Albany, classe Los Angeles, en a fait de même à Gibraltar. Toujours est-il que selon OPEX 360, les manœuvres navales Neptune Strike 22 coïncideront en partie avec celles qui ont été annoncées cette semaine par le ministère russe de la Défense, des exercices distincts auront lieu dans les eaux de la Méditerranée, de la mer du Nord, de la mer d'Ortosk, dans la partie nord-est de l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique, a-t-il en effet annoncé, expliquant que leur objectif principal sera de mettre à l'épreuve les forces navales, aériennes et spatiales pour protéger les intérêts nationaux russes et contrer les menaces militaires contre la Russie depuis les mers et les océans. Et quand débutera Neptune Strike 22, une flottille de navires d'assaut amphibies russes devrait naviguer en Méditerranée. Celle-ci se compose de 6 bâtiments. Nord Stream 2 est fini. En novembre dernier, la certification de Nord Stream 2 avait été suspendue par l'Allemagne pour des raisons soi-disant techniques qui manifestement ne sont toujours pas surmontées. Entre le cas américain de le bloquer par tous les moyens et la position de la Commission européenne de faire participer l'Ukraine à la procédure de certification, il ne reste plus à espérer que le réchauffement climatique ait vraiment lieu et très vite. Cela semble, pour l'Europe, beaucoup plus réaliste que de penser que ces élites nationales et européennes vont commencer à défendre les intérêts des pays européens. Pour raison de non-conformité à la législation allemande, la certification de Nord Stream 2 a été interrompue en fin d'année dernière. La question était présentée comme purement technique, très simple à régler, mais manifestement les complications s'enchaînent. Car non seulement aucun déblocage n'est en vue, mais la rhétorique s'aggrave proportionnellement à la détérioration de la situation internationale. L'Allemagne envisage désormais que Nord Stream 2 ne soit pas certifié par l'Union européenne, mais immédiatement annonce qu'elle n'envisage aucun dédommagement dans ce cas. Ce n'est pas de sa faute. Dans le même temps, la décision a été prise d'inviter l'Ukraine dès lors que la procédure de certification arrivera devant la Commission européenne. Ne doutons pas qu'alors le projet sera bombardé au niveau européen. Cet exemple illustre parfaitement la trahison des élites nationales en Europe, autant que le positionnement des élites européennes. Alors qu'à la mi-janvier, justement, les États-Unis annonçaient leur train de mesures de rétorsion contre la Russie et qu'un point spécial était dédié au blocage à n'importe quel prix de la mise en marche de Nord Stream 2. De toute manière, ce sont les pays européens qui ont payé le prix. Et la lâcheté coûte toujours très cher. Voilà ce qu'il reste de la souveraineté réelle dans les pays européens, assez pitoyable.